Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Cette semaine, c'est pour vous faire découvrir un personnage haut en couleur avec Cécile Marcadet et son troisième roman, Les fleurs du passé renaissent parfois. Et c'est aux éditions L'Harmattan. Bonjour Cécile Marcadet.
Bonjour Nathalie.
Il y a une anecdote que vous avez peut-être découvert pendant votre enquête que vous meniez sur ce personnage si romanesque qui se passe en Alsace. Racontez-nous cette anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que notre Joseph, turbulent, a été envoyé par ses parents chez des cousins en Alsace. Et l'Alsace, à l'époque, était allemande. Et il s'était pris d'amitié avec d'autres jeunes de son âge. Il parcourait les bars et c'était au concours de celui qui chapardera le plus d'objets en disant, en partant toujours. Ah ben c'est toujours ça qu'on...
De repris sur les 5 milliards.
Voilà, c'est toujours ça de pris sur les 5 milliards qu'ils nous doivent. Voilà.
Voilà, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre, il y avait cette phrase que les gens disaient, c'est toujours ça que les Boches n'auront pas.
Oui.
Bon, ben, la première... À chaque guerre, son slogan.
Voilà.
et lui, c'était ça. Il était content.
Ah ben, il était content. Dès qu'il fallait faire des bêtises, c'était le premier, hein, bien sûr.
Alors, bon, c'est pas pour ça que ça l'a calmé, finalement. Non. À chaque fois, ses parents l'envoyaient quelque part en espérant qu'il revienne un peu plus sage.
Oui.
Mais finalement, lui faisait sa vie et...
Et
il menait l'aventure.
Il devait avoir un don des langues parce que il a parlé allemand, ce qui lui a beaucoup servi après. Il parlait parfaitement l'anglais puisque ses parents l'avaient envoyé en Angleterre. Donc il était trilingue et c'était à cette époque-là, c'était pas mal.
C'est vrai que quand il est parti adolescent, il est resté une année entière.
Au moins, oui, 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 oui.
Et il est tombé dans une famille
adorable,
qui l'a adopté. Oui, et puis oui. lui apparemment il a l'air de se fondre comme ça dans le décor.
Oui.
Il s'adapte, quoi.
Il est très adaptable, tout lui permet d'aller de l'avant et de s'épanouir.
Alors il fait un séjour également assez étonnant aux États-Unis.
Après la guerre,
il prend le bateau, il débarque à New York, il se retrouve au Texas, et là, à un moment donné, il mène une vie de cow-boy.
Oui.
Et puis ça lui plaît.
Oui, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Alors au début, il a un peu souffert hein, parce qu'il était sur des chevaux qui ne savaient pas faire de cheval. Mais oui, c'était quelque chose de nouveau, c'était bien. Il rencontrait d'autres gens. Il était très adaptable, très ouvert au monde qui l'entourait. Et il a toujours été comme ça tout le temps. Et, une empathie énorme. Ah, oui.
Il s'est mis au lasso, il attrapait les animaux.
Ah oui, il
avait... Le bétail.
Oui, moi j'ai vu une photo où il a je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce de tablier en cuir. Il est en cow-boy, quoi.
Et puis ça a l'air de lui plaire.
Oui, bien sûr, ça lui plaît bien. Il serait bien resté si sa marraine de guerre avait été là, mais elle n'était pas là. Donc il fallait quand même qu'il revienne en France. Mais sinon, oui, il trouvait ça très, très bien. Le grand air, tout ça, était bien.
Donc après, il est parti en Californie.
Alors là, c'était...
Chez ses cousines.
Voilà, c'est parce qu'au départ, il était parti parce qu'on demandait des soldats pour former les soldats américains. Et donc, il fallait des gens qui parlaient l'anglais. Et donc, il y est allé, mais ça a été la signature de l'armistice à ce moment-là. Donc, il n'y avait plus rien à faire. C'est pour ça qu'il est allé au Texas. Et puis, chez puis ses cousines, elles avaient envie de le voir un petit peu. C'est un homme charmant. Et donc, il est allé en Californie, du Texas, il est parti en Californie. Il a eu des moments, et ça, c'est ce que j'ai lu dans ce qu'il raconte, assez truculent, où il est dans le train, et il trouve ça bizarre que les gens ne lèvent pas le nez quand le
contrôleur
vient, mais simplement, ils ont leur ticket qui est coincé dans leur chapeau, je ne sais pas où, et le contrôleur poinçonne le ticket, voilà, il repart, et puis l'autre n'a pas bougé.
En fait, il se serre dans le chapeau, il poinçonne le ticket, voilà, il remet ça. Le ticket dans le chapeau,
oui, c'est ça.
Et le voyageur,
voilà, c'est
voilà,
ça.
Il n'intervient pas.
Oui.
C'est vrai que c'est... Enfin, là, on est quand même au début du 20e, ça doit être très dépaysant pour lui, quand même.
Oui, comme tout le reste, ça a toujours été très dépaysant, mais on a l'impression qu'il le regarde avec un œil neuf, et puis après, il le fait sien. Et toutes les aventures, il les prend au premier degré, avec beaucoup de simplicité.
Il a tenu un journal de son séjour, là ?
Alors, je me souviens de cet épisode-là. Je me souviens aussi que, dans ce qu'il écrivait, que oui, il a dû... Oui, parce que ça fait partie de sa « Magare Naguère ». Ça fait partie de son carnet. Quand il trouvait qu'il s'amusait un peu trop violemment, et puis il les trouvait ridicules quand ils allaient sur leur manège... Je trouvais ça stupide. C'était des grands enfants, quoi. C'est comme ça qu'il les décrivait, en fait.
Les Américains ?
Oui.
Les Texans, ouais. Peut-être plus
Ça devait être au Texas, oui, oui. Non, parce qu'après, quand il est allé en Californie, il était un peu...
Il était chez ses cousines.
En compagnie de ses cousines qui lui ont fait voir une autre partie des États-Unis complètement différente.
C'est vrai que le Texas et la Californie sont quand même deux États qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Non, rien à voir du point de vue
de mentalité.
Physique, géophysique, je veux dire, et puis du point de vue mentalité, forcément, parce que la Californie, c'était des aventuriers qui s'étaient installés là. Et les parents de la cousine, c'était en tant qu'aventuriers qu'ils étaient arrivés jusqu'en Californie. Où ils avaient commencé à construire des maisons en bois, à créer une école, etc.
Ils faisaient partie de ces vagues de chercheurs d'or.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais je crois qu'ils avaient fui l'Allemagne. L'Allemagne de la Prusse.
D'accord.
Ils étaient allés s'installer là-bas.
Et vous avez refait tout ce, au fil de l'enquête que vous meniez sur cette personne, vous avez refait le voyage ?
Un petit peu, oui.
Ça doit être étonnant quand même de se mettre comme ça dans les pas de celui qu'on recherche ou qu'on essaye de faire revivre.
Oui, c'est amusant, c'est... Oui.
Le voyage n'a pas la même saveur que quand on fait du tourisme.
Oh bah bien sûr, c'est différent, hein, bien sûr. C'est différent parce qu'on l'imagine, mais même c'est des endroits où je suis allée. Donc là, le fait d'aller sur ces traces, je comprenais encore plus, encore mieux.
Et de relire après son manuscrit, ça donne une autre saveur à une fois le voyage fait.
Non, parce que c'est différent. Quand j'ai lu le manuscrit, on y était déjà allé. Simplement, j'ai revu les paysages où il était allé.
Oui, il n'y a pas eu de relecture après.
Non.
Vous connaissiez juste, en
ça
fait, les...
Ça, oui.
Là où il était allé, vous y aviez déjà été, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement.
Bon, bah écoutez, on va clore le voyage là, ici, pour aujourd'hui. Il nous reste notre dernière journée où on va un petit peu revenir à Eglantine, quand même. C'est le personnage, cette héroïne, comme vous les aimez et comme on a pu retrouver dans vos autres romans. Et puis, on laisse place à un petit peu de lecture. Je vous dis à demain.
À demain.
Cécile Marcadet, Les fleurs du passé renaissent parfois. Tout arrivait en même temps. Attendant avec impatience un message d'Adrien en réponse au sien si laconique et sans chaleur, Églantine reprit contact avec son professeur pour prendre rendez-vous avec l'éditeur qui lui avait proposé son concours pour une publication. L'éditeur était en réalité une jeune éditrice qui avait repris la maison à la mort de sa mère, la fondatrice. Il fut entendu qu'elle devait se rencontrer directement au siège de l'édition. Une atmosphère dynamique régnait entre les murs de l'établissement. Une joyeuse agitation parcourait les salles. Églantine était venue avec son manuscrit sous le bras. Elle patientait, un peu inquiète, espérant que la secrétaire l'invitât rapidement à se présenter. Elle ne savait pas si son agitation intérieure était due au stress ou au fait qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour se préparer à cette rencontre. Tout était allé si vite après son rendez-vous avec son professeur. Il lui avait montré la réponse de la maison d'édition et ensemble, ils avaient convenu d'une date. Elle était encore tout étourdie par la rapidité des événements. Il lui semblait qu'elle venait juste de présenter son mémoire de fin d'études et de parler à son supérieur du manuscrit sur la vie de son grand-père. Elle avait complètement occulté les quelques semaines passées qu'elle n'avait pas vraiment vécues, absente de sa propre vie, comme un trou noir. Et la voilà entre les murs d'une maison d'édition. N'était-ce pas trop ? N'allait-elle pas se réveiller et souffrir d'une grande déception ? Ce fut précisément à ce moment que la secrétaire lui demanda d'entrer. « Mademoiselle Capucine vous attend. » Églantine sursauta et se leva d'un bond, menaçant de lâcher son dossier qu'elle tenait sur ses genoux. Elle craignit un temps de s'évanouir. Ses jambes flageolaient dangereusement. Heureusement, la porte en face d'elle s'ouvrit et une jeune femme souriante, le cheveu court, aux allures d'étudiante, en jean et pull noir simple mais élégant, lui tendit la main. « Bonjour, Églantine !» Églantine n'en revenait pas. C'était la patronne. Elle paraissait si jeune. Elle comprenait à présent l'élan dynamique qu'elle avait ressenti en traversant le bâtiment. Elle se demandait comment le sujet de son roman, parlant de temps révolu, pouvait à ce point les intéresser qu'ils eussent envie de le publier. Capucine devait lire dans ses pensées car elle lui expliqua sans préambule que ce sujet les avait attirés par son côté un peu anachronique. Notre maison d'édition est une toute petite structure et nous avons pris le parti de nous désolidariser de la mouvance littéraire d'aujourd'hui qui voudrait que l'on ne traite que de sujets actuels, dans un style de langage parlé en faisant fi de tout effet de style. Nous avons été enthousiasmés par cette histoire tellement différente. Églantine sourit. La biographie de son grand-père, qui lui avait paru à elle, sa petite fille, si exceptionnelle, recevait un accueil chaleureux d'une maison d'édition jeune et moderne qui avait l'habitude de lire des récits étonnants et de traiter tant de sujets invraisemblables. Elle fut rassurée et se détendit. Maintenant, il nous faudrait discuter de quelques points de détail concernant la forme et le titre de votre manuscrit. Nous avons également un département livre d'art. Voulez-vous qu'on insère des photos de la Syrie de l'époque de l'entre-deux-guerres comme documents historiques, ainsi que des documents de poilus dans les tranchées ? À mon avis, l'idée d'y intégrer des documents de la Syrie et pourquoi pas du Kent et des États-Unis correspondant aux époques où mon grand-père y a vécu me plaît. En revanche, les tranchées avec l'image morbide que sa véhicule ne correspondent pas à ce que j'ai voulu transcrire de sa vie, qui restera heureuse malgré toutes les épreuves qu'il aura subies, même au cours de la Deuxième Guerre. Et que vous ne relatez pas. Volontairement ? Oui, tout à fait. Cette période terriblement douloureuse a déjà fait l'objet d'un travail de fin d'études pour mon école et correspond à des sujets qui ont été maintes et maintes fois traités dans la littérature. Je voulais seulement raconter qu'au début du XXe siècle, la vie ordinaire de gens aisés pouvait être teintée d'aventures. pourvu qu'on en ait l'envie, et j'ajouterais le toupet. J'ai découvert, en écoutant le récit que m'en faisait ma grand-mère, un homme audacieux doté d'une volonté obstinée dans un habit de douceur et de bonhomie. Oui, c'est tout à fait ce que l'on ressent à la lecture de votre récit. Je pense toutefois que vous devriez étoffer un peu le sujet pour en faire un roman plus important. Quant au titre « Deux ou trois choses sur mon grand-père », y tenez-vous beaucoup ? Si vous voulez mon avis, je le trouve trop long ou trop court. Mais nous pourrions y réfléchir ensemble avec mon équipe. Puis votre ouvrage passera entre les mains du service de correction qui sera mis en relation avec vous pour vous mettre au courant et connaître votre accord. Ensuite, ce sera le travail du service des maquettistes qui s'occupera de la mise en page. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de travail à première vue. Je n'ai pas constaté grand-chose à améliorer. Vous connaissez la mise en forme. Je viens de terminer une école de journalisme et ça faisait partie de notre formation. L'entrevue dura plus d'une heure. Capucine, la directrice, demanda à Églantine des précisions sur la vie de ses grands-parents, sans que ni l'une ni l'autre ne s'étendît sur la période de leur vie qui couvrait la Seconde Guerre mondiale. Églantine n'y tenait pas. En revanche, elle lui raconta le dernier épisode de la vie célibataire de Joseph et la joie qu'elle éprouvait à avoir pu contacter le descendant de Sam, l'ami de celui-ci. Il lui semblait que la boucle était bouclée et que lorsque le livre aurait été édité, quel que fût son destin, elle pourrait penser à autre chose. Elle se demandait si dans un curriculum vitae, elle pourrait désormais indiquer comme profession auteur ou romancière. Et puis, en y réfléchissant, elle décida qu'elle préférait mettre journaliste, ce qui correspondait davantage à sa personnalité et à ses projets. Elle marchait dans le Paris déserté de ses habitants et investie par les touristes, le nez en l'air, l'appareil photo en bandoulière. Certains avaient un plan de la capitale déplié sous leurs yeux et paraissaient perplexes sur la direction à prendre. Un groupe de Japonais, le téléphone, dernier cri, élevé à hauteur des yeux, mitraillait les monuments que le guide leur décrivait. Les femmes s'étaient protégées d'un rayon de soleil trop intense par un masque de crème sur le visage. Elles avaient une petite voilette pour les défendre des vilains insectes et des lunettes de soleil pour les abriter du soleil. Deux protections valaient mieux qu'une.
Place à la lecture dans « Il était une fois un livre ».
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était assez longtemps de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.